Le journal présenté par Caroline Félix.
Bonsoir, bonsoir à tous. Au Sri Lanka, la traque des terroristes continue. Pour l'instant, personne n'a revendiqué l'attentat d'hier qui a fait près de 300 morts. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Les États-Unis frappent l'Iran au portefeuille. Washington interdit à 8 pays d'acheter du pétrole iranien. Coup de filet chez les milliardaires algériens. 5 des plus grosses fortunes du pays ont été arrêtées. Parmi eux, des proches de l'ancien président Bouteflika. À suivre également en France, une deuxième journée de solidarité pour les personnes âgées. L'idée est dans les tuyaux du gouvernement. Cette mesure est-elle efficace? On y revient dans le journal. Il est 1h30 du matin au Sri Lanka. Le pays connaît sa deuxième nuit de couvre-feu après le massacre du dimanche de Pâques. L'état d'urgence est décrété à partir de ce soir. L'attaque terroriste d'hier a fait 290 morts et 500 blessés. Parmi eux, 31 étrangers dont un français. Les explosions ont visé surtout des hôtels et des églises. Antoine Guinard, c'est la communauté chrétienne qui a été visée.
Sur l'avenue qui longe la mer et mène à l'église Saint-Antoine de Colombo, les trois grands hôtels de la capitale frappés par les attentats paraissent vides, hormis les sentinelles armées postées devant les rubans de police jaunes qui barrent l'accès aux visiteurs. Le restaurant du Shangri-La exhibe encore les séquelles de l'attentat suicide survenu dimanche. Quelques kilomètres plus loin, plusieurs personnes sont venues déposer des cierges ou des notes écrites en dessous de l'immense statue de Saint-Antoine qui précède d'une centaine de mètres l'église du même nom. Parmi eux, Suchit Abeyavikraman, de confession bouddhiste, venu porter un message de solidarité envers la communauté chrétienne.
C'était très important pour moi de me montrer solidaire aujourd'hui de ceux qui ont souffert de ces attentats, en particulier les chrétiens qui sont les plus touchés. C'était important d'être avec eux, de faire le deuil avec eux. C'est une église unique, même les non-chrétiens viennent prier ou se recueillir ici.
Devant l'église Saint-Antoine dévastée, où des dizaines de fidèles ont été tués dimanche pendant la messe de Pâques, le prêtre Jude Fernando, qui a survécu aux attentats, tient lui aussi à véhiculer un message de paix.
Je demande simplement aux gens de prier pour nous, de prier pour les victimes et de rester calme et de ne pas créer de problèmes car on doit rester calme à l'heure qu'il est. J'ai reçu des messages du monde entier car cette église est miraculeuse. Du matin au soir, les gens viennent prier ici. C'est très touchant.
Après ces attaques terroristes, les Sri Lankais semblent pour l'heure tenir à rester unifiés malgré ou peut-être à cause des démons du passé. Les violences entre communautés tamoules et cingalaises pendant 26 ans de guerre civile avaient déchiré le pays et souvent divisé les chrétiens eux-mêmes.
Reportage d'Antoine Guinard à Colombo. Alors qui est derrière ces attaques? C'est toute la question au lendemain du drame. Les attentats n'ont toujours pas été revendiqués, mais le gouvernement accuse un mouvement islamiste radical local, le MTJ. 24 personnes ont été arrêtées. Nous sommes en ligne avec Éric Meyer, professeur émérite à l'INALCO, spécialiste du Sri Lanka. Éric Meyer, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ces attaques n'ont pas été revendiquées, je viens de le dire, mais le gouvernement a accusé un mouvement islamiste radical local, le NTJ. Alors qu'est-ce que vous savez de ce réseau?
En fait, on ne sait pas grand-chose du réseau. Il s'est fait connaître à partir de novembre 2016. Son créateur, qui s'appelle Abdul Razik, semble avoir formé ce groupe pour s'opposer à l'association menée par des bouddhistes militants extrémistes qui s'appelait l'armée de défense du Bouddha, la Bodhu Balasena, et qui visait les musulmans de l'île. Donc il ne s'agit pas du tout d'une organisation qui est à l'origine avec quoi que ce soit à faire avec les chrétiens.
Alors pourquoi s'en prendre à la communauté chrétienne?
C'est effectivement très difficile à expliquer. D'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs communautés chrétiennes, puisqu'il y a des catholiques qui sont dans l'île depuis des siècles, qui sont bien intégrés, qui appartiennent d'ailleurs au groupe aussi bien cingalais que tamoul. Et puis, il y a des gens qui se revendiquent de sectes évangéliques, qui ont été convertis beaucoup plus récemment, et qui ont été eux-mêmes la cible d'attaque de la part de bouddhistes. Mais le fait que qu'il y ait une opposition entre musulmans et chrétiens est tout à fait nouveau à Sri Lanka et en fait ne correspond pas du tout à l'histoire du pays. Il n'y a jamais eu de violence entre ces deux communautés.
Éric Meyer, 87 détonateurs ont été retrouvés dans la capitale Colombo. Les opérations de déminage ne sont pas terminées. Alors, comment on peut imaginer une attaque terroriste de cette ampleur? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une aide d'organisation terroriste étrangère?
Alors, on peut imaginer qu'il y ait une aide, ou surtout qu'il y ait une formation à l'étranger. On sait que quelques douzaines de Sri Lankais ont fait partie de l'État islamique, ont combattu en Syrie. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, il y a une histoire de présence sri-lankaise dans les rangs de l'État islamique. Ceci dit, un groupuscule comme celui d'Abdul Razik ne me semble pas être en mesure d'organiser une opération d'une telle ampleur.
Et il y a 10 jours, hein, justement, ce mouvement, le NTJ avait déjà fait l'objet d'une alerte auprès des services de police. Comment expliquer que le Premier ministre n'ait pas été averti? Est-ce qu'il y a une défaillance, d'après vous, à ce niveau-là?
Ah, il y a des défaillances à tous les niveaux, puisque en fait, la situation politique sri-lankaise est extrêmement confuse depuis la fin de l'année dernière, puisque la coalition qui s'était constituée en 2015 pour prendre le pouvoir, qui avait battu l'ancien président Rajapaksa, s'est complètement déconsidérée et a perdu toute capacité de contrôle de l'État, au point que le président avait appelé l'ancien président Rajapaksa comme Premier ministre au mois d'octobre. Cet épisode n'a pas été durable puisque Rajapaksa a dû redémissionner en décembre, mais on peut dire qu'actuellement l'État sri-lankais est un État qui est affecté par une très très grave crise politique interne, et il est clair que le clan Rajapaksa, donc qui entoure celui qui a été président jusqu'en 2015, utilise toutes les occasions pour continuer à le déstabiliser. Je ne dis pas par là qu'il soit responsable de ces opérations, mais il y a certainement des défections et des défaillances au niveau des renseignements qui peuvent expliquer que ces attentats aient eu l'importance qu'il a eu.
Donc on peut imaginer que ces organisations qui ont attaqué le Sri Lanka jouent aussi sur les divisions des différentes communautés ?
Certainement, certainement.
Merci Eric Meyer d'avoir été notre invité, professeur émérite à l'INALCO, spécialiste du Sri Lanka. La tension économique entre l'Iran et les États-Unis monte d'un cran avec cette annonce de Donald Trump. Washington sanctionnera tous les pays qui continuent à importer du pétrole iranien. Jusqu'à présent, 8 pays avaient encore le droit d'en acheter. Donald Trump veut priver le régime de sa principale source de revenus. Les explications de Loïc Loury à New York.
Terminer les exemptions, plus personne ne pourra se fournir en pétrole auprès des Iraniens. En novembre dernier, après être sorti de l'accord sur le nucléaire, Washington avait rétabli ses sanctions contre Téhéran et bloqué en bonne partie ses exportations de pétrole. Des dérogations toutefois avaient été attribuées pour ne pas trop brusquer le marché mondial. Ce sont ces mêmes exemptions qui viennent donc d'être levées. Elles concernaient 8 pays dont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud ou l'Italie. Dès le début du mois de mai, ils ne pourront plus acheter leur pétrole à la République islamique. L'objectif pour les Américains est simple, disait ce matin le secrétaire d'État, mettre un peu plus la pression sur les Iraniens en ramenant à zéro leurs exportations de pétrole et ainsi enlever au régime sa principale source de revenus. Reste cependant à attendre les conséquences d'une telle décision. 1 million de barils par jour sont retirés du marché alors que celui-ci, sous tension, atteint déjà son plus haut cette année. Mais Washington l'assure, son allié saoudien notamment et d'autres pays producteurs compenseront la baisse. Nos sanctions, affirme Donald Trump, sont désormais complètes contre le pétrole iranien.
Et la Turquie a rejeté ces annonces par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Nous n'acceptons pas des sanctions unilatérales et des contraintes sur la manière dont nous gérons nos relations avec nos voisins. Fin de citation. La situation bloquée au Soudan, le conseil militaire de transition a haussé le ton hier. Il demande à l'opposition la levée des barrages. Le mouvement de contestation, lui, est décidé à intensifier sa mobilisation. Les protestataires réclame le transfert vers un pouvoir civil. Cette situation sera au cœur d'un sommet en Égypte demain. Le président Al-Sisi a convoqué plusieurs chefs d'État africains. Que peut donner cette initiative? Gérard Prunier est chercheur indépendant et spécialiste du Soudan. Il est sceptique.
Il profite très simplement de la présidence de l'Union africaine qui leur appartient. Et ce qui est intéressant, c'est le modus operandi, la manière dont on opère dans cette affaire, car on convoque M. Idriss Déby, M. Omar Guelleh, M. Sassoum Nguesso, mais pas représentants des Soudanais. Donc on va discuter de leur sort par-dessus leur tête. Il en est un peu de la même chose avec la Libye. Là, au Soudan, il est au contraire tout à fait d'accord pour soutenir l'establishment militaro-islamiste qui était au pouvoir depuis 30 ans. Donc il soutient le pouvoir actuel, surtout pour que rien ne bouge.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. Arrestation de 5 milliardaires en Algérie. Aujourd'hui, la gendarmerie a interpellé l'homme d'affaires Issad Rebrab. C'est l'homme le plus riche du pays. Hier, c'est une fratrie proche du frère de l'ancien président Bouteflika qui a été arrêté. Ils vont devoir s'expliquer pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. À Alger, les précisions de Leïla Berato.
Des images tournent en boucle sur des chaînes de télévision privées. Issad Rebrab, le propriétaire du groupe Cevital, un milliardaire, première fortune du pays, amené dans un fourgon de la gendarmerie au tribunal d'Alger. La télévision nationale annonce qu'il était arrêté. Le groupe Cevital dément et affirme que l'homme d'affaires de 74 ans était entendu par la gendarmerie sur l'un de ses projets d'investissement bloqués. Autre annonce de la télévision, les quatre frères Kouninef, à la tête d'un groupe qui pèse 300 millions de dollars, ont eux aussi été arrêtés par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête liée aux conditions d'obtention de marchés publics. Les quatre hommes sont très proches de la famille Bouteflika. Selon la presse, ils ont fait partie des financeurs des campagnes électorales d'Abdelaziz Bouteflika et le groupe qui travaille dans le secteur de l'hydraulique et du bâtiment a également construit sa fortune grâce à la commande publique. C'est une situation similaire à celle de Ali Haddad, l'ancien leader du FCE, l'organisation patronale, et qui a été arrêté le 31 mars dernier alors qu'il voulait passer la frontière tunisienne.
Des explications de Leïla Berato. Aux Philippines, 5 personnes sont mortes après un séisme. 2 bâtiments se sont effondrés. À Manille, la capitale, des milliers de personnes ont été évacuées. Les États-Unis ont félicité aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Le comédien vient de remporter la présidentielle en Ukraine. La diplomatie américaine a réaffirmé son soutien inébranlable à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Flic suicidé, à moitié pardonné, suicidez-vous. Ce sont les tags retrouvés sur les murs de la gendarmerie de Landivisio, dans le Finistère. Ces inscriptions ont été rapidement effacées. Elles font écho au slogan de la manifestation parisienne des Gilets jaunes samedi. Défilé au cours duquel un journaliste a été arrêté, Gaspard Glantz avait fait un doigt d'honneur aux policiers. Il sera jugé le 18 octobre prochain à Paris. Les Gilets jaunes n'attendent rien des annonces d'Emmanuel Macron. Le président doit faire des propositions inspirée du grand débat national, des propositions qui ont déjà fuité la semaine dernière. On sait notamment que l'État cherche de l'argent pour financer la dépendance. D'après l'ancien directeur de la Sécurité sociale, Dominique Libault, il faudrait 9 milliards d'euros en plus d'ici 2030. 3 pistes sont donc à l'étude, à la fin des 35 heures, le report de l'âge du départ à la retraite, mais également, David Ravier, une seconde journée de solidarité.
Cette journée de solidarité existe depuis 2004. Elle consiste à travailler un jour dans l'année sans être payé. En échange de cette journée gratuite, votre entreprise reverse 0,3% de sa masse salariale brute pour financer les mesures afin de préserver l'autonomie des seniors. L'année dernière, les gains liés à la journée de solidarité étaient estimés à 2,42 milliards d'euros. 60% de cette somme finance les aides pour les personnes âgées, comme l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, tandis que le reste va pour les handicapés. Si la mesure dégage de l'argent, pour Gérard Cornillon, économiste à l'OFCE, elle reste un mauvais calcul pour les sociétés.
Aujourd'hui, elles payent en réalité 0,3% de leur masse salariale à titre de cotisation des entreprises et on leur fait croire que ça leur coûte rien parce qu'elles ont la possibilité d'employer leurs salariés une journée de plus dans l'année. Mais en réalité, comme ça n'augmente pas la production de l'ensemble de l'économie ou de manière extraordinairement marginale, ça revient en fait à avoir augmenté les cotisations patronales.
Si jamais une deuxième journée de solidarité était mise en place, l'État pourrait potentiellement obtenir près de 5 milliards d'euros chaque année. On est donc loin des 9,2 milliards préconisés par le rapport Libault et en plus, ce n'est pas forcément la meilleure solution.
Il n'y a pas de déjeuner gratuit, comme disent les économistes. Donc, en réalité, si on veut obtenir 2 milliards et demi de plus de cotisations pour financer les besoins relatifs au grand âge, eh bien, il faut augmenter les cotisations.
Et si l'idée du financement de la journée de solidarité reste encore un casse-tête pour le gouvernement, il pointe néanmoins un vrai problème sur la dépendance. Selon les estimations de l'INSEE, en 2050, un Français sur trois aura plus de 50 ans.
Et on passe au temps pour demain. Un point sur la météo. C'est instable sur plusieurs régions. Autour de la Méditerranée, dans la matinée, des pluies parfois modérées prendront un caractère orageux près des côtes. Dans la moitié nord, la journée débutera avec du beau temps. Des nuages sont à prévoir dans le sud-ouest. Ailleurs, le temps sera instable avec des ondées orageuses et un risque de grêle sur la façade atlantique.